Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Les syndicats entendaient prouver que le soufflet n'est pas retombé. 10 jours après une première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, encore beaucoup de monde partout en France, voire plus que le 19 janvier dernier. On attend encore les chiffres du ministère de l'Intérieur. La CGT a comptabilisé 2 800 000 manifestants partout en France. Peu d'incidents majeurs, on en est à 30 interpellations. Au moment où l'exécutif change de ton, le durcit pour ne montrer aucun signe de faiblesse, continuer de se montrer déterminé à faire adopter le projet de réforme des retraites. Comment ce nouveau succès syndical est-il perçu? On va essayer de le savoir avec Christopher Weisberg, député Renaissance. Bonsoir. Des Français établis à l'étranger. Bonsoir monsieur le député.
Ça va bien?
Nous sommes également, merci, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Nous sommes aussi avec Julien Trocaz, délégué syndical Sudrail. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est à vous que je pose la question, si vous n'êtes pas trop fatigué, je crois que vous avez marché dans tout Paris aujourd'hui.
Ah non, mais après une manifestation, une réussite comme ça, on n'est pas fatigué en fait. On est de nouveau déterminé.
Ça fait oublier
ça fait oublier un peu les mal aux jambes et on a vite envie d'y retourner.
Bon, eh bien on est prêt à écouter vos arguments ce soir dans Europe Soir. Monsieur le député, je commence par vous. La mobilisation est semble-t-il un nouveau succès. Ça traduit quoi pour vous?
De toutes les manières, une réforme des retraites, ça suscite toujours de l'intérêt de la part des gens qui vont manifester. Ça a toujours été le cas, et là particulièrement. Il y a une unité syndicale, ce qui fait que c'est évident que ce sont des manifestations qui sont suivies. Ça n'empêche que c'est une réforme qui est forcément pas très populaire, puisqu'on demande en partie à des gens de travailler plus longtemps. Donc on peut s'attendre toujours à ce que sur ce genre de réforme, il y ait des gens qui répondent aux appels des syndicats. Mais je pense, et j'espère que j'aurai le temps de vous le prouver, que c'est une réforme nécessaire, qui est certes probablement un peu impopulaire, mais nécessaire.
Indispensable, disait hier Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Julien Trocaz, satisfait ce soir, même si on n'a pas les chiffres encore du ministère de l'Intérieur, qui nous donne une image un peu plus précise. Vous avez vu du monde aujourd'hui dans Paris et même ailleurs, vous avez peut-être des chiffres à nous donner?
Alors, on a vu beaucoup de monde à Paris, mais on sait aussi, par rapport aux remontées qu'on a toute la journée, c'est qu'il y a eu plus de manifestations que le 19 janvier et il y a eu plus de monde dans toutes les manifestations et dans des petites villes et dans des villes moyennes. Et ça, c'est un élément important qui montre que la colère face à cette réforme des retraites, elle est bien ancrée de partout dans tous les métiers, chez les retraités, chez la jeunesse et dans tout le territoire. Et c'est pas que à la capitale, on va dire. Où des fois, ça peut cristalliser. On peut voir la capitale et beaucoup de monde. Là, c'est de partout en France où il y avait plus de monde que le 19 janvier.
Alors, espacer de 10 jours les deux grandes mobilisations, c'était une bonne stratégie, si j'ai bien compris, Julien Trocaz.
La preuve que oui, puisqu'il y a plus de monde. Après, la stratégie...
Je pense notamment aux cheminots qui ont renoncé à faire des blocages un peu systématiques, successifs dans l'intervalle.
Non, les cheminots, ils ont renoncé à rien, en fait. Les cheminots...
Il y a un appel à la grève pour les 7 et 8 février.
Il y a un appel à la grève pour les 7 et 8 février et on a planté, avec la fédération CGT, le sujet de la grève reconductible par période de 24 heures également, parce qu'on sait l'affrontement, et vous l'avez dit, l'affrontement social que le gouvernement nous impose, puisque rien n'est négociable, il y a des totems, c'est indispensable. On sait qu'il va falloir élever s'il n'y a pas le retrait. Donc on a tout mis ça sur la table et on ne s'interdit rien.
Il va falloir cranter, comme on dit dans le jargon des cheminots, c'est ça ?
Il va falloir ancrer la grève, il va falloir organiser des assemblées générales, que les grévistes décident de leur grève et que d'autres secteurs, évidemment, partent aussi avec nous.
Personne ne veut le blocage, Monsieur Weisberg.
Ah bah non, forcément, le blocage, c'est la situation qu'on veut éviter. Vous avez dit que c'est la deuxième journée de mobilisation. Moi, hier, j'ai commencé ma première journée dans la commission d'affaires sociales pour examiner un texte. Et je pense que c'est le moment aussi du Parlement, c'est le moment de travailler. Il y a des oppositions qui sont aussi capables de faire des propositions. Il y a quelques points sur lesquels je crois qu'on est attaché, parce que c'est l'esprit de la réforme, mais il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut encore négocier.
Alors, lesquels, par exemple, on parle beaucoup de l'index des seniors, la clause de revoyure d'ici 2027.
L'index des seniors, la pénibilité.
Alors, c'est pas ce que demande l'intersyndicale. Je pense notamment à la CFDT, qui est le syndicat clé, puisque dès lors qu'il participe à cette intersyndicale, il y a forcément une mobilisation générale, disons-le comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est évidemment le retrait de l'article 7, celui comprenant le décalage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ça n'est plus négociable, ça, comme l'a dit la première ministre Elisabeth Borne.
C'est l'esprit de la réforme, on a été élus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, on était élus sur une autre réforme des retraites qui, elle, proposait un changement complet une autre philosophie avec un système à points. À l'époque, déjà, monsieur, je pense que vous étiez contre cette réforme-là aussi, ce qui prouve que parmi certains syndicats, il y a toujours un nom de principe sur à peu près n'importe quelle réforme des retraites. On avait la CFDT, cette fois-ci, c'est vrai que la CFDT avait dit que ça faisait partie des totems. Cela bon. Dit, alors, on a un enjeu de démographie qui a changé.
Il y a probablement plus d'un million de personnes dans les rues, ils n'ont même pas peur, quoi. Ouais.
Ah, mais de toutes les manières, moi je pense qu'il ne faut pas. Enfin, il ne faut ni gouverner avec les sondages quand on est élu.
Alors là, ce n'est pas un sondage. Là, hein. Ah oui, les sondages, c'est vrai que c'est un chiffre un peu brut, un peu froid. Là, il y a des images.
Mais je voulais dire, enfin, il y a eu 95, 2010. Quand on aborde le sujet des retraites, ça touche tous les Français. Et je respecte parfaitement l'engagement d'aller manifester. Mais en même temps, on est aussi élu et nous-mêmes, on a une légitimité. Là, c'est la légitimité démocratique.
Monsieur Trocaz, tant que le gouvernement n'évoquera pas le retrait potentiel, attention, hein, on parle évidemment au conditionnel des 64 ans, vous serez toujours mobilisé ?
On sera toujours
mobilisé. Monsieur Lesberg faisait référence à 2010, la dynamique syndicale avait fini par s'essouffler. Hein.
Elle avait fini par s'essouffler. Il me semble que depuis 2010, par exemple, le sujet d'une meilleure répartition des richesses dans ce pays, avec, ce soit avec le passage du Covid, avec les gilets jaunes, c'est quelque chose qui est un peu plus ancré, où on voit bien qu'il y a de plus en plus de pauvres et qu'il y a de plus en plus de riches, et qu'on dit qu'aujourd'hui, je me permets de contredire ce que vous avez dit, hein, c'est pas des postures, c'est pas du dogme en fait, c'est pas qu'on est contre, c'est qu'il y a des solutions. Enfin, on peut parler du financement, on considère que dans ce pays, il faut répartir un peu mieux les richesses, et qu'effectivement, et moi j'assume aussi qu'on veut, par exemple, moi ma revendication et celle de l'Union Syndicale Solidaire et la Fédération Sudrail, c'est de partir en retraite au maximum à 60 ans, et avec les métiers pénibles jusqu'à 55 ans. Et ça, c'est la société dans laquelle je veux vivre.
Christopher Weisberg, député Renaissance, est avec nous. Julien Trocaz du syndicat Sudrail également. On va vous entendre, chers auditeurs, qui nous appelez au 39-21 juste après une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes à la fin de la seconde grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, journée organisée par l'intersyndicale. Nous en parlons avec Julien Trocaz de Sudrail et Christopher Weisberg, député Renaissance des Français établis à l'étranger. Avant la pause, Julien Trocaz exposait ses solutions pour une réforme des retraites. Vous vouliez, je crois, lui répondre, Christopher Weisberg. Allez-y, très court, parce qu'il y a des auditeurs qui ont des questions à vous poser.
Parce que, en fait, on est dans un système qui est un système par répartition. Donc, il doit se financer lui-même. Sinon, c'est plus le même système et on le met en danger. Et surtout, quand vous dites qu'il y a énormément d'inégalités, mais on reste le deuxième pays au monde après le Danemark qui a le plus de prélèvements sociaux et on est un des pays au monde qui a le plus d'impôts. Donc, c'est pas comme si aux États-Unis, je suis député des Français des États-Unis, quand Trump est passé, il a baissé les prélèvements de façon assez honteuse. Eh bien là, il y a un rattrapage à faire. Mais nous, on est dans un pays où on a déjà un taux de prélèvement qui est énorme. Donc, c'est pas facile, si vous voulez. Si on le fait, le risque, c'est soit de prendre un risque sur l'emploi, soit de prendre un risque, si c'est sur les cotisations sociales, sur les salariés. Donc, ce n'est pas évident.
Pardon, Christopher Weisberg, de vous interrompre, mais ça fait des semaines, alors qu'on organise des plateaux sur la réforme des retraites ici, on entend toujours ces arguments de la majorité. Ils sont confrontés à la réalité de l'opinion, hein, qui, dans les sondages et dans la rue également, rejette cette réforme des retraites. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les éléments de langage, la façon de la vendre, cette réforme? Il n'y a qu'une approche comptable, on dirait.
C'est un des principes de cette réforme.
Et ça fédère une société, ça ?
Non, mais en fait, ce qui est fondamental pour moi, et c'est vrai que c'est là où on a une autre approche, moi je considère qu'il faut être responsable sur notre système. Et que le risque, c'est que si on ne l'est pas, vous avez dit tout à l'heure 60 ans. 60 ans, c'est 80 milliards par an. Où est-ce qu'on les trouve, ces 80 milliards ? Et le risque, au bout d'un moment, c'est que si on affaiblit le système, eh bien, il est plus pérenne. Et honnêtement, on est quand même un des pays d'Europe qui parle plus tôt. Et ça, c'est une réalité. En Europe, c'est 64 ans et demi. Nous, on est à 62.
Julien Trocaz de Sudrail, je vous laisse répondre. Et puis, on va entendre Anne qui nous appelle au 39-21.
Ouais, vous l'avez dit, moi je pense que le gouvernement ou tous les députés peuvent continuer à faire de la pédagogie, parce qu'évidemment, depuis 2-3 semaines, on continue à faire de la pédagogie, et ça marche pas en fait, ça marche pas, parce que l'opinion publique, elle est contre, et on a bien compris qu'il y avait de l'argent, qu'on pouvait les répartir un peu mieux. Moi je prends juste les aides reçues par les entreprises, elles s'élèvent à 157 milliards, 157 milliards, vous m'avez sorti un chiffre. On peut peut-être juste de dire ces aides, on les diminue un petit peu et on y met. On peut parler du déficit, ce que ça représente, le déficit du système qui représente entre 0,5 ou 0,8 points du PIB, eh ben, les aides que je vous ai dit, ça représente 6,4% du PIB. On pense qu'il y a une meilleure répartition des richesses qui permettrait de financer le système que vous dites. Enfin, pour de vrai, il y a plein d'associations, il y a ATTAC, plein de gens, des économistes qui disent que oui, on peut évidemment financer autrement. C'est un sujet de répartition des richesses. Mais c'est un sujet de société. Moi, je vais vous le dire. Moi, mon père, il est mort à 60 ans, il était cheminot, il a fait toute sa vie en 3-8, donc il est parti en retraite à 55 ans parce que c'était un métier pénible, ben, il a profité de cette seconde vie pendant 5 ans. Moi, je considère, et je me bats aussi pour ça, je considère que dans cette société, on a le droit de la seconde vie, de ne pas mettre le réveil le matin, de ne pas être toujours sous un employeur avec des... Voilà, on a le droit d'avoir une seconde vie. Donc ouais, moi, je me bats pour une société où à 60 ans maximum, eh ben, on en profite.
Alors, il y avait plus de Français dans les rues qu'il y a 10 jours. Hein, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur qui vient de nous parvenir. Il y avait, selon Beauvau, 1 272 000 personnes dans les rues. Il y a 10 jours, c'était 1 120 000. Voilà, légère augmentation, mais augmentation tout de même. Peut-être une réaction, Julien Trocaz, une satisfaction. Les auditeurs ne vous voient pas, vous avez un grand sourire.
Mais non, mais parce que là, il y a une augmentation, donc vous dites c'est léger, il y aurait une petite baisse, on aurait dit, voilà, le mouvement, il s'effrite, il y a un...
Ah, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit légère baisse.
Voilà. D'accord, c'est la première fois que je viens, mais il y en a certains, ils nous auraient... Là, il y avait effectivement plus de monde. Et plus de monde, ça veut dire des gens qui ont perdu une journée de salaire pour aller manifester, pour monter une
mécontentement. Ce qui sera intéressant de voir, c'est la prochaine mobilisation avec, dans l'intervalle, ce que vous nous annonciez tout à l'heure, des blocages organisés par les cheminots, notamment.
Mais c'est pareil, c'est pas des blocages. En fait, les cheminots et les cheminotes...
Si jamais ça baisse,
non, mais ils servent à l'intérêt. On peut pas parler de blocage quand des cheminots qui servent à l'intérêt collectif...
Ah bah quand il y a pas de train, tout le monde est bloqué, c'est la vérité.
Mais parce qu'on sert à quelque chose. Enfin, il y a des gens, ils servent à rien, ils font grève, ça se voit pas.
On nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1. Bonsoir, Anne.
Bonsoir tout le monde et bonne année à tous, puisqu'on est encore le 31 janvier.
Oh là là, vous êtes juste dans les limites. Bonne année à vous aussi, chère Anne.
Oui, merci beaucoup. Bon, je voulais vous remercier aussi de laisser la parole, parce que vous le faites de temps en temps, mais aux 30% de gens qui sont pour la réforme de la retraite. Mm-hmm. Parce que moi, je suis pour. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Hein. Je pense qu'en effet, il faut revoir la grille de pénibilité, qu'elle soit plus clair, c'est pas la peine de rentrer trop dans des détails. Et puis peut-être en effet que les 43 ans, pour ceux qui ont commencé tôt, ça suffirait. Mais à part ça, c'est mathématique. Il faut de l'argent si on veut pérenniser le système, comme disait monsieur le député de l'étranger. Et ce qu'il faut voir, c'est que avant, beaucoup de choses ont été dites, hein, mais avant, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Maintenant, il y en a 1,7. Et si j'ai bien compris, dans 15-20 ans, il y en aura 1,5 pour un retraité. Donc, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je pense que les 64 ans, c'est très bien, parce que quand même, monsieur le syndicaliste de Sudrail, il disait que son papa est mort à 60 ans, ce qui est évidemment très dommage, il n'a eu que 5 ans de retraite, mais faut jamais prendre de ce genre d'exemple, parce que c'est quand même pas la majorité des cas. Donc, peut-être que, je sais pas, dans les années 60, la retraite, elle était je sais pas, 10 ou 15 ans, ça pouvait durer, mais maintenant, même si c'est pas en augmentation, on peut vivre 20 ou même 30 ans. Moi, mes parents, ils sont morts il y a peu de temps, 3 et 5 ans, et ils ont vécu à plus de 90 ans. Donc, voilà, il y a
quand
même des cas.
Et puis, l'espérance de vie augmente au fil des ans. Hein. On vit bien plus longtemps dans les années 2020 que dans les années 1980. Vous n'en dites qu'on ne viendrait pas, Julien Trocaz, d'ailleurs. Excusez-moi.
À 62 ans, 5% des plus riches sont décédés. À 62 ans, 25% des plus pauvres sont décédés. Et aujourd'hui...
Oui, d'accord, mais...
Juste, moi, je vous écoutais. Et aujourd'hui, on a seulement 40% des travailleurs qui ont un emploi à 60 ans. 40% des travailleurs et des travailleuses qui ont un emploi à 60 ans.
Voilà. Bah, écoutez, moi, monsieur, j'aurais voulu rester plus individuel. Moi, je voulais rester plus à travailler et ça n'a pas été possible parce que les statuts ne me permettaient pas de faire plus le nombre d'annuités qu'il fallait faire parce que donc ça arrive à tout le monde et le problème c'est que vous dites faire payer les riches mais enfin heureusement qu'on a L'Oréal, LVMH qui sont des fleurons français et qui font travailler plein de personnes. Si, quand j'entends comment elle s'appelle, la Tondelier, bah, elle n'a qu'à créer des coopératives, si elle le veut, si elle veut que tout le monde soit égaux.
Marine Tondelier, qui espère une France sans milliardaires, hein, faut le rappeler, ce sont des déclarations qui ont
fait du bruit la semaine dernière. C'est une connerie monumentale, hein. Franchement, c'est impossible. Ou alors on se retrouve en Chine, où il y a quand même des milliardaires, mais au lieu d'être, je ne sais pas, 10%, ils sont 1%.
Alors, merci de me tendre cette perche, chère Anne. Alors, il y a d'autres auditeurs qui voudraient passer. Alors, excusez-moi, hein, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que le débat se déporte de plus en plus sur la France des riches, la France des pauvres. Hein. Il n'est pas un peu travesti, là, le débat? On s'éloigne un peu du sujet des retraites.
Mais exactement, c'est pas ce sujet-là, en fait. Moi, je suis évidemment tout à fait conscient que, et il y a des pays où c'est vraiment le cas, il y a énormément d'inégalités. Mais le sujet des retraites, c'est que quand même le système, si on est attaché au système par répartition, il doit être viable par lui-même. Si à chaque fois, on veut aller taper sur une autre caisse, à un moment, on affaiblit le système. Mmh. Et bon, bah, Anne, évidemment, je me dis qu'au moins, les éléments de langage ne sont pas juste des éléments pour les députés, parce que ce que vous dites, c'est aussi du bon sens. Quand on travaille plus longtemps, et il y a énormément de gens qui vivent plus longtemps et qui veulent travailler plus longtemps. Alors justement, cette réforme, elle cherche à compenser les gens qui ont commencé très jeunes, les gens qui ont des métiers pénibles, pour que les autres puissent travailler plus longtemps, mais pas en sacrifiant ceux qui ont des carrières difficiles ou des carrières pénibles.
Julien Trocaz, sur ce sujet, oui, est-ce que le vrai sujet derrière le sujet des retraites, est-ce qu'il y a le clivage pauvre-riche ?
Enfin, moi, j'insiste depuis tout à l'heure, je parle d'une meilleure répartition des richesses. Alors après, on peut faire un débat.
Vous avez bien compris où je voulais en venir.
Mais d'accord. Mais oui, enfin, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'aujourd'hui, même ceux qui créent des entreprises gagnent des sommes exorbitantes, mais même personne arrive à palper, hein, pour de vrai, et que de y être de plus en plus pauvre. Moi, j'ai dit, il faut répartir les richesses. Mais on peut prendre deux exemples, si vous voulez. On peut parler, par exemple, de la réserve du système de retraite qui est de 2,6 milliards aujourd'hui. Il y a 206 milliards de réserve pour le système des retraites. On peut parler de l'ex-CICE qui coûte 20 milliards par an. Enfin, on peut les accumuler, les chiffres. Et là, je parle pas des milliardaires, là. Si on veut pas faire sur un truc de ping-pong entre milliardaires, mais sur d'une meilleure répartition des richesses qui peut permettre de financer. Et si l'auditrice, elle veut continuer à travailler, moi, je l'invite même à aller, si elle veut faire, d'aller dans une association, aider. On a besoin, des fois, voilà, il y a même des élus, hein. Des fois, on sait que les maires, les députés sont plus à près de 60 ans. Enfin, on peut continuer à avoir une vie active, mais laisser les gens, ils peuvent partir à 60 ans. S'il y en a qui veulent continuer, ils continuent.
Hein. On nous appelle encore au 3921, le standard d'Europe 1. Thierry est avec nous. Bonsoir, Thierry.
Oui, bonsoir.
Alors, pour vous, si j'ai bien compris, le gouvernement ne peut plus faire de la sourde oreille là, face à cette mobilisation encore très importante aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, je suis plutôt partisan pour une réforme des retraites parce que je souhaite que mes enfants bénéficient d'une retraite comme nous, on va pouvoir le bénéficier. Moi, je suis à la retraite d'ici 3 mois, donc c'est proche. Mais le problème aujourd'hui, c'est de la façon dont c'est fait et dont ça nous est imposé. Encore une fois, je voudrais revenir sur la pénibilité, que ce soit un maçon, un déménageur, ou comme mon épouse qui est assistante maternelle, par exemple, où là je fais une parenthèse, il faut savoir que chez les assistantes maternelles, qu'on soit assistante maternelle à domicile ou dans une crèche, on n'a pas les mêmes statuts et on ne part pas à la retraite au même moment. Donc voilà, là aussi c'est des choses, c'est complètement aberrant. Mais en même temps, je dirais que les politiques, depuis un certain temps, ils chantent tous à l'unisson en disant que c'est pour une meilleure égalité, une meilleure répartition, pour plus de justesse, etc. Les syndicats, c'est un petit peu la même chose. Et je renvoie un petit peu tout ce beau monde dos à dos. Si on veut faire quelque chose qui soit équitable pour tout le monde, eh bien à ce moment-là, il faut que ce soit la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire la fonction publique, le privé. Et quand on regarde au niveau des régimes de retraite, les régimes spéciaux de nos élus également, les ministres, ils exercent 6 mois et puis ils ont une retraite à vie. Les députés, ils ont des avantages à n'en plus finir, mais bon, comme c'est eux qui votent les lois,
alors,
donc évidemment...
Le député Weisberg n'est pas du tout d'accord avec vous sur ces deux points.
Alors au contraire, moi je suis d'accord en partie avec ce que vous dites, parce que ça fait partie des aspects qui sont dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a la fin des régimes spéciaux. Et moi je suis attaché à ça. Je considère que c'est important de se dire que il devrait pas y avoir de raison qu'entre une assistance maternelle dans le public et dans le privé, eh ben, elle n'est pas le même régime de retraite. C'est, pour moi, c'est une inégalité aussi que quelqu'un qui est à la RATP, il n'est pas le même régime que quelqu'un qui est chauffeur de bus à Nantes ou ailleurs. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Après, c'est simplement, c'est pas du tout que je n'ai pas hoché de la tête, parce que sur la question des ministres et des députés, en fait, on a supprimé ces régimes sous la précédente mandature. Donc évidemment, moi, je suis pour aucun privilège pour les élus. Cela dit, je suis pour qu'il n'y ait pas cette distinction de régime. En général.
Merci Thierry, en tout cas, de nous avoir appelé au 39-21. Avant de vous libérer, messieurs, une petite réaction à ces dates. Je parle au pluriel, car l'intersyndicale lance un appel à de nouvelles mobilisations. Il y en aura deux la semaine prochaine, le mardi 7 et le samedi 11. Julia Troca, je me tourne vers vous. Comme le gouvernement, vous haussez le ton, vous aussi, les syndicats ?
Ah oui, effectivement, les deux annonces, on hausse le ton, et dès demain, on sera sur le terrain pour repartir, pour reconvaincre et pour repréparer les prochaines journées de grève et de manifestations interprofessionnelles.
Merci beaucoup Julien Trocaz, délégué syndical chez Sudrail. Merci à vous Christopher Weisberg, député Renaissance, la majorité présidentielle des Français de l'étranger. Restez avec nous sur Europe 1, nous continuons de débattre de la réforme des retraites dans quelques instants avec Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Un nouveau rendez-vous commence dans Europe Soir aujourd'hui, un mardi sur deux. Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, viendra débattre avec le service politique d'Europe 1. Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Bonsoir à Jacques Serret qui participe donc à ce premier rendez-vous.
Bonsoir.
Un sujet domine aujourd'hui, cette nouvelle mobilisation assez importante contre la réforme des retraites. Je vous rappelle le chiffre du ministère de l'Intérieur, 1 272 000 opposants à la retraite à 64 ans comptabilisés dans toute la France aujourd'hui. Et puis on l'apprend à l'instant, l'intersyndicale relance un appel à une mobilisation qu'on appelle donc interprofessionnelle, une mobilisation nationale, c'est-à-dire à l'échelle de toute la France, de toutes les professions, de tous les secteurs. Il y a eu 10 jours entre celle du 19 et celle d'aujourd'hui. Cette fois, il y en aura deux en une semaine. La première le mardi 7 et la suivante le 11 février. C'est un samedi. Jacques Serret, l'intersyndicale comme le gouvernement hausse le ton.
Mais ils haussent le ton et en même temps, ils peuvent, dans le sens où cette deuxième journée est encore une réussite pour l'intersyndicale. Ce chiffre d'1 272 000, chiffre police ce soir, est un record, en tout cas quand on compare au précédent chiffre police de l'ensemble des manifestations depuis 1984. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue, en reprenant ces chiffres de la police, pour une manifestation sociale telle qu'une manifestation contre la réforme des retraites. La dernière fois, en tout cas, le record était détenu jusqu'à présent par la manifestation au projet de loi retraite d'Éric Woerth. C'était en 2010, un chiffre qui atteignait 1 230 000. Ce soir, c'est 1 272 000. Voilà, évidemment qu'il peut y avoir deux nouvelles dates. L'intersyndicale est en position de force, malgré le fait que le gouvernement hausse le ton.
Mais jusque-là, l'intersyndicale voulait rester prudent. Je cite Laurent Berger dans le journal Le Monde il y a deux jours. Surtout, garder l'opinion avec soi. Carole Barjon, votre commentaire à cette nouvelle forme de mobilisation donc, qui commence la semaine prochaine.
Mais ce qui est intéressant, c'est le choix du 11, si je comprends bien, qui est le samedi. Voilà. Parce qu'un samedi, et c'est, je pense, l'idée évidemment de Laurent Berger, c'est qu'il peut y avoir encore beaucoup plus de monde, puisque là, ce qu'on a remarqué au cours de cette journée-ci, aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de manifestants que la dernière fois, mais il y a moins de grévistes. Parce qu'une journée de grève, c'est du salaire en moins. Et donc, l'idée de Laurent Berger, c'était précisément de choisir un samedi pour que ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de salaire, de travail, puissent venir manifester. Et donc peut-être, évidemment, espère-t-il gonfler les troupes pour continuer de faire pression sur le gouvernement.
Voilà,
bien sûr.
Accentuer bon. La pression
et,
sur le gouvernement.
Et sur le Parlement. Et sur le Parlement.
Le troisième acteur clé hein, de ces semaines décisives que nous allons vivre hein, pour cette réforme des retraites, le gouvernement, Jacques Serey, ne peut pas rester insensible, sourd à ces mobilisations réussies, hein, il faut le dire.
Bah on voit mal que...
Enfin, vous rappelez 2010, ils doivent peut-être se rappeler au bon souvenir de 2010, où il y avait eu, je crois, 14 manifestations contre la réforme des retraites. Le million avait été dépassé plusieurs fois, vous l'avez rappelé, mais la réforme avait fini par passer. Mais à l'époque, il n'y avait pas de majorité relative, il faut le préciser.
C'est ça le point important. Alors voilà, aujourd'hui, le gouvernement est décidé à aller vite en actionnant notamment ce potentiel article 47.1 avec des débats qui se termineraient dans l'hémicycle fin mars. Donc en effet, on a l'impression qu'il y a un compte à rebours à la fois entre le temps législatif et ce temps des manifestations de la contestation sociale qui s'accélère au fur et à mesure du mois. On était, vous disiez une mobilisation au bout de 10 jours. La semaine prochaine, il y en aura deux. La même semaine, donc dans 10 jours, le 7 et le 11. Et on ne voit pas comment le gouvernement ne peut pas ne pas bouger. Alors, sous quelle forme, on verra. Pour l'instant, c'est Elisabeth Borne qui va sortir du bois, entre guillemets, cette semaine, avec une émission prévue jeudi soir, il me semble, sur France Télévisions. Emmanuel Macron, on ne l'a pas entendu. Quelle doit être sa réaction? Pour l'instant, il se réserve sur les sujets internationaux. On l'a encore vu aujourd'hui avec la réception de responsables ukrainiens à l'Élysée. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la précédente manifestation, il était en Espagne. Va-t-il devoir, lui aussi, s'engager dans ce débat, alors que, en tout cas, depuis la rentrée de janvier, il s'était préservé en n'allant pas sur ce sujet-là.
Carole Barjon, il doit faire quoi, le gouvernement, là? Laisser attendre encore un petit peu, parce que la semaine prochaine, il y aura ces deux mobilisations, et puis dans l'intervalle, il y aura aussi des grèves hein, à la SNCF. Rappelons également qu'une partie des Français seront en vacances.
Oui, 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 oui. Bah, le gouvernement, de toute façon, il parie évidemment sur le fait que s'il y a des blocages, puisque la CGT... on a annoncé que les blocages, évidemment, c'est généralement très impopulaire, particulièrement en période de vacances. Donc, ça peut faire basculer un peu l'opinion. C'est un des paris du gouvernement, mais pas le seul. Leur pari, c'est de pouvoir peut-être encore négocier ce qu'on appelle quelques mesures d'accompagnement sur les carrières longues, mais il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre.
Est-ce que ce n'était pas un peu volontaire? Est-ce que le projet tel qu'il a été dévoilé, exposé le 10 janvier dernier, en fait, il était déjà à l'euro près, et en fait, très peu négociable?
Parce qu'il y avait eu des avancées avant, oui. Notamment sur l'augmentation des petites retraites, minimum 1 200 €, ce genre de choses. Hein. Bon, ça, c'était d'ailleurs des négociations avec le parti, enfin les députés des Républicains. Là, aujourd'hui... si on considère que c'est la CFDT est quand même le premier syndicat de France, hein, faut le rappeler. Jusqu'à présent, c'est la CFDT qui a imposé sa stratégie, hein, c'est-à-dire pas de grève reconductible, mais des mobilisations fortes, chaque fois qu'on peut. Et là, là, ça continue. Et la CFDT ne veut pas. Des 64 ans. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à négocier de ce point de vue-là pour le gouvernement. Et je ne vois pas quand même les députés de la majorité céder sur ce point-là, puisque Elisabeth Borne elle-même a dit les 64 ans, de toute façon, c'est terminé, ça n'est pas négociable. Donc, on peut finir par arriver à un débat sans vote, puisque la procédure législative choisie par le gouvernement, l'article 47.1 le permet. Enfin, évidemment, ça ferait un peu désordre quand même.
Voilà, le 47.1, on le rappelle, limite à 50 jours hein, les débats au Parlement. S'il n'y a pas de vote à l'issue des 50 jours, ça fonctionne par ordonnance. Alors là, on rentre dans des débats de constitutionnalistes, parce que je crois que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a déjà mis son haut là. Il a dit, attention, on va regarder ça de près. Et puis il y a l'affaire des cavaliers législatifs. Enfin, on ne va pas revenir dans le détail, parce que c'est un peu compliqué, un peu aride à évoquer. Puis on n'y est pas encore. Surtout,
non.
Jacques Serey, ce qui peut servir également le gouvernement, c'est l'attitude de la gauche ces derniers jours en commission des affaires sociales. Sandrine Rousseau, députée NUP, a parlé par exemple de la carrière de Kylian Mbappé. Que fera Kylian Mbappé après ses 50 ans? Je la cite. Hein. Et puis elle a parlé également cet éloge du droit à la paresse. Ça peut servir le gouvernement, ça aussi.
Évidemment que ces positions un peu caricaturales servent le gouvernement. Après, ce qui est source d'inquiétude aujourd'hui au sein de l'exécutif, en tout cas ce que m'expliquait un cadre de la majorité aujourd'hui, c'était pas tant sur le nombre de manifestants qu'il allait avoir aujourd'hui, ils savaient qu'il allait avoir du monde, c'était plus davantage sur qui allait manifester. Mmh. Si c'était un front syndical uni, des gens qui se mettent en grève véritablement et qui ont l'habitude, entre guillemets, des manifestations, c'était pas spécifiquement source d'inquiétude. Là, leur problème aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de se rendre dans la rue. Et on le voit, par exemple, il y avait moins de grévistes chez les enseignants, moitié moins presque qu'il y a 10 jours. Aujourd'hui, moitié moins d'enseignants, mais en grève, pardon, et davantage de gens dans la rue. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude. Et ça, c'était un peu le point qui était craint par l'exécutif, c'est de voir finalement un mouvement social qui s'étend à la population.
Exactement.
Et aux villes moyennes. Hein.
Et j'ajouterais, alors voilà, on est tous très impressionnés par
quelques
ça.
Quelques chiffres,
hein.
40 000 personnes à Marseille, 28 000 à... Voilà, 10 500 personnes à Châteauroux, chiffre du ministère de l'Intérieur. Carole Bargeon, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, pas du tout. Et effectivement, sur ce mouvement social, ce qu'on a noté aujourd'hui apparemment, c'est qu'il y avait des retraités. Et ça, c'est un peu nouveau, parce qu'il y a encore un mois ou deux, les retraités étaient plutôt majoritairement favorables à cette réforme. Un certain nombre de sondages aujourd'hui, et ça, on l'a vu dans ces manifs, montrent que les retraités commencent à trouver que cette réforme, finalement, elle est injuste et manifestent pour, au fond, leurs petits-enfants ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, il y a une sorte de solidarité générationnelle qui se manifeste. Et c'est vrai que, du coup, on n'est plus forcément dans quelque chose de classique.
Jacques Serret, 10 secondes.
Et très court. Et justement, sur mon avis, la stratégie du gouvernement doit changer. C'est-à-dire que le week-end dernier a été marqué par un durcissement dans le ton. Et on le voit ce soir, en tout cas, les premiers mots d'Elisabeth Borne. Ce soir, on y vient. Et en tout cas, c'est qu'elle explique entendre les interrogations et les doutes d'une mobilisation massive. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'un assouplissement dans le ton après le durcissement qu'on a pu avoir le week-end dernier.
Affaire à suivre, merci Carole Bargeon, on vous retrouve dans 15 jours. Et merci à vous Jacques Serret, on vous retrouve dès demain sur les antennes d'Europe 1. Restez avec nous, un nouveau journal dans quelques secondes.